La franc-maçonnerie et sa relation avec le monde politique. En traitant de la relation de la franc-maçonnerie et de la patrie, nous sommes entrés dans le domaine du temporel et nous y resterons en étudiant les rapports de la franc-maçonnerie avec la politique, j'aimerais mieux dire le politique. Dans ce domaine, on a souvent énoncé des contre-vérités, des opinions aussi diverses qu'erronées. Aussi, nous voudrions nous arrêter un moment sur cette question en essayant de l'éclairer. Et pour cela, nous partirons de deux propositions, disons même de deux constatations, de deux évidences. La première, qui consiste à dire qu'aujourd'hui comme hier, le franc-maçon n'appartient pas à un ordre qui se veut uniquement et seulement contemplatif, mais qu'il veut être un homme d'action, un bâtisseur, et dans le cadre de la cité et de la société où il vit, un homme responsable qui s'efforce de traduire son idéal dans ses actes. La seconde, elle découle de la première, nous montrera que nombreux sont les francs-maçons qui participent à la vie politique de leur pays, et cela à tous les niveaux. Conseils municipaux, conseils généraux, conseils régionaux, assemblées nationales, Sénat, conseil économique et social. Et nous le savons, il y a des francs-maçons ministres et des ministres francs-maçons. Le phénomène n'est pas nouveau, et il a toujours existé. En France en particulier, sous la Ve République, sous la IVe et la IIIe, sous l'Empire, même dans l'Ancien Régime. Par ailleurs, et c'est un fait aussi avéré, nombreux sont les hommes qui participent à la vie politique de notre pays et qui ne sont pas francs-maçons. Il y a, par exemple, dans un gouvernement qui peut présider aux destinées de la France, des ministres qui sont catholiques, ou protestants, ou juifs, ou athées, etc. Peut-on dire qu'ils vont chercher les directives de leur action soit auprès de l'archevêché de Paris, du Conseil œcuménique des Églises réformées ou du Consistoire, ou auprès de la Fédération rationaliste? Nous ne le pensons pas. Ils déterminent leur action politique en fonction des engagements qu'ils ont pris devant leurs électeurs et avec les partis auxquels ils appartiennent et en fonction de leur conscience. Eh bien, il en est de même des ministres francs-maçons. La Grande Loge de France, très certainement, ne s'arroge pas le droit de leur donner des directives et des consignes. Si elle le faisait, elle perdrait le sens de sa vocation et se dénaturerait. Car la loge maçonnique, la franc-maçonnerie par définition, veut être un centre d'union. Et pour cela, elle respecte le droit à la différence, la libre conscience dans leur détermination des hommes qui la composent et qui la constituent. Il en est, voyez-vous, du domaine politique comme du domaine religieux. La liberté de la conscience est notre loi, et faut-il l'ajouter, le respect de la démocratie, du suffrage universel, quand ils sont légalement et normalement exprimés. Si nous passons des gouvernants aux gouvernés, nous rappellerons un article important de notre Constitution où il est dit « Les francs-maçons respectent les lois et l'autorité légitime des pays dans lesquels ils vivent et se réunissent librement. » Et on ajoute « Ils sont des citoyens éclairés, disciplinés et conforment leur existence aux impératifs de leur conscience. » Ajoutons encore que dans ce domaine politique, comme dans le domaine religieux, ils recherchent en général la conciliation des contraires. Ils cherchent à unir les hommes dans le respect de la personnalité de chacun. Dans le domaine particulier qu'est le domaine politique, nous retrouvons donc une constante dans la philosophie de la franc-maçonnerie. C'est la défense d'abord de la liberté, de toutes les libertés, et la défense de ce qui est juste et raisonnable. C'est la recherche de la concorde entre les citoyens et de l'union entre les hommes, le respect scrupuleux de la personne humaine. Aussi, c'est quand les droits de la personne humaine nous semblent menacés, lorsque les libertés fondamentales nous paraissent en péril, que les francs-maçons, par-delà leurs différences religieuses, politiques, philosophiques, s'unissent pour sauvegarder ses droits et ses libertés. La franc-maçonnerie en tant qu'institution, la Grande Loge en particulier, aurait non seulement le droit, mais le devoir d'intervenir dans la vie publique lorsque des fanatismes de toutes sortes, des systèmes totalitaires, menacent l'existence même de la maçonnerie, détruisent les colonnes de nos temples, persécutent et assassinent les francs-maçons eux-mêmes. Comme d'ailleurs, elle l'a fait dans un passé récent, et comme elle le ferait encore contre tout système totalitaire qui interdirait la franc-maçonnerie et persécuterait les francs-maçons. En ce qui concerne la vie intérieure des loges, rappelons ici l'essentiel de l'article 4 des déclarations de la Grande Loge de France, selon lequel, je cite, « Toute controverse, dispute, touchant à des questions politiques, comme des questions confessionnelles, est interdite en loge, et que, si des exposés sur ces questions sont proposés, c'est en dehors de tout esprit partisan et sectaire. Et que, si débat il y a, il ne saurait jamais donner lieu à un vote ni à l'adoption de résolutions qui seraient susceptibles de contraindre les sentiments et les opinions de certains frères. Dans ce domaine si difficile, où trop souvent, les passions risquent de provoquer des déchirements, la franc-maçonnerie s'efforce d'apporter une volonté de dialogue constructif, un esprit de concorde et d'harmonie. En agissant ainsi, nous sommes les fidèles continuateurs de ceux qui posèrent les fondements de l'ordre maçonnique au début du XVIIIe siècle. Aucune brouille ni querelle ne doit passer le seuil de la loge, et moins encore quelque querelle à propos de la religion ou de la politique. N'oublions pas que lorsque se reconstituent les loges maçonniques en Angleterre, en Écosse, en France, en Europe, ces différentes nations viennent de connaître les terribles guerres civiles et religieuses, que pendant des décennies, des hommes se sont déchirés et massacrés pour des questions religieuses et politiques et pour la conquête de ce pouvoir, et que les consciences ont été profondément marquées par ces déchirements. Aussi, la plupart des hommes de ce temps aspirent à la paix civile et recherchent une certaine union dans la tolérance réciproque. Ils espèrent en une humanité enfin réconciliée avec elle-même et s'efforcent d'en réaliser le modèle dans la loge maçonnique elle-même.